Radio Canut vous présente, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le retour du fils. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. Fermait la valise et la posait à terre. Il regarde sa montre. 9h30. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas levé si tôt. Il va ouvrir la fenêtre de la chambre. Il fait soleil et doux. C'est normal, nous sommes en juin. Après avoir regardé la rue Mercière quelques minutes, il se retourne et regarde dans la glace de l'armoire. Une vieille armoire à cajou 1930. Il n'est pas très grand, taille moyenne, habillé d'un blouson et d'un pantalon de cuir noir défraîchi. Le blouson ouvert laisse voir une chemise blanche pas très propre. Cheveux châtains, un peu longs, visage rond et enfant, il fait très gamin pour ses 30 ans. D'ailleurs, il n'est jamais sorti du monde de l'enfance. Capricieux, impulsif, nerveux, inconscient, instable. Son existence n'a été jusqu'à présent qu'une amalgame d'étapes sans suite. À 18 ans, elle a quitté lycée et famille pour courir les routes avec un groupe de jeunes qui voulaient faire fortune en chantant dans les rues. Puis, au bout d'un mois, traînant savates dans les villes, le groupe s'est dissous et s'est retrouvé seul. Il a vécu quelque temps avec un ménage soi-disant marginal, puis avec une femme mûre. Pendant 2 années, il a fait la manche, quelques larcins. A vécu aussi avec une fille du nom d'Armand, 10 ans plus vieille que lui. Il est resté avec elle 5 ans. La fille l'entretenait. Mais un jour, il en a essayé de rester enfermé dans une chambre. Il est parti. Après multiples aventures, il a décidé de se venger. Une de ses connaissances de vagabondage lui a mis dans la tête d'acheter un bar. Le besoin d'argent pour acheter le bar lui a rappelé qu'il avait une famille.
Ils m'aideront sûrement. Un bar, c'est du sérieux.
Prend sa valise et sort de la chambre d'hôtel. La valise n'est pas lourde. Il a décidé d'aller à Perrache à pied. Arrivé à la gare, il prend un billet de deuxième classe pour Saint-Gervain, dans la Brême. Il s'assoit dans un compartiment vide.
C'est mes parents qui vont être surpris de me revoir après tant d'années. Ah, la famille, y'a que ça. Et puis je leur propose une bonne affaire. Avoir des parts dans un bar, c'est ce qui rapporte le mieux.
Après 2 heures de train, le train lui paraît long. Il aimerait pouvoir bouger. Il n'aime pas rester en place. Et puis il a faim. Il décide qu'à la première station, il descendra et prendra un train un peu plus tard. Il n'est pas un jour près de toute façon. Le train s'arrête à une gare. Il s'apprête à descendre, mais une jeune fille monte. Il décide de rester.
« Salut !»«
Salut !» dit-elle. « Je m'appelle Franck et toi ?»«
Cécile. »
Elle n'est pas très grande, dans les 20 ans, mince, cheveux châtains coupés courts, recouverte d'un chapeau d'homme noir. Elle porte un blouson noir et un jean.
J'ai un compartiment tranquille. On y va ?
Oui. Et elle le suit avec sa petite valise. Arrivée dans le compartiment, elle met la valise dans le porte-bagages et s'assoit près de la fenêtre et lui en face d'elle.
Tu vas loin ?
Elle fait le long de la tête.
Issoudun, et toi ?
Saint-Gervain, dans la Brême.
C'est quoi ça ?
Un petit bled.
Ah, et qu'est-ce que tu vas faire là-bas ?
Voir mes parents.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Je fais des tas de choses, mais maintenant, je vais me lancer dans du sérieux.
Il bâille.
Une bière ? Elle fait oui de la tête. Il se lève, prend sa valise dans le porte-bagages et l'ouvre. On sort une bouteille de bière bon marché. Il ouvre la bouteille et l'attend à la fille.
Tiens !
Elle boit une bonne gorgée, amène la bouteille.
Elle tend la bouteille à Franck qui en fait autant. C'est chouette.
Il en boit encore une gorgée.
Qu'est-ce que mes vieux vont être surpris ? Tu penses ?
Il en boit encore un coup.
donne une bonne tape sur la cuisse de la fille.
Tu es chouette, toi. Tu sais, mes vieux, j'en propose une bonne affaire. Oui.
Il boit encore.
Demande ce qu'ils vont dire lorsqu'ils me reverront. Remarque, c'est une bonne affaire.
Il frappe la cuisse de la fille encore une fois. Monte la main jusqu'en haut des cuisses. Elle ne dit rien.
Toi aussi, t'es une bonne affaire.
Il ouvre le tiroir de sa commode et en prend une paire de gants en cuir noir. Elle referme le tiroir. Puis va vers la table guéridon prendre un sac à main. Avant de quitter la chambre, elle se regarde dans la glace qui est au-dessus du guéridon pour voir si son chapeau noir et ses mèches de cheveux sont bien en place. Elle porte un tailleur gris et des chaussures à talons hauts noirs. Elle a dans les 50 ans, son visage est dur, ses yeux sont d'un bleu pâle délavé. Elle sort de la pièce. Longe un couloir. Le couloir est sombre. Elle s'arrête devant une porte et frappe.
Génie, il est l'heure, dépêche-toi, c'est long, nous allons être en retard.
De derrière la porte, l'on entend.
Oui, mère, j'arrive tout de suite. Bon, je t'attends en bas.
Elle longe le couloir. Descend les escaliers. Bas, ouvre une porte. Trouve dans le salon Louis XV. Les rideaux des deux fenêtres sont tirés. Les pièces baignent dans la lumière. L'on a une odeur de parquet ciré. Tout est en ordre. Deux fauteuils encadrent les fenêtres. Au milieu de la pièce, table basse avec dessus un vase plein de roses. Chaises, canapé, vaisselier sur un mur, cheminée et une bibliothèque. Elle regarde avec satisfaction la pièce. Va s'asseoir sur une chaise. Après quelques minutes, la porte s'ouvre. Et apparaît une jeune fille, grande, mince, les cheveux mi-longs, blonds, visage pur et lisse. Elle porte une robe blanche toute simple. La mère se lève et va vers sa fille.
Dépêchons-nous.
Elles sortent de la maison. Devant le perron se trouve BMW noir. Un chauffeur les attend debout, casquette à la main. Elles descendent le perron. Dans la voiture et la voiture démarre.
Dépêchons-nous, je déteste être en retard.
S'est arrêtée devant l'église des petits villages. Elles entrent dans l'église.
c'est déjà le credo.
Ces deux femmes sont entourées par les femmes du village qui les saluent.
« Et comment va-t-il ? »
Elle hausse ses épaules.
« Oh, vous savez, toujours la même chose. Excusez-moi, mais ma fille et moi, nous ne sommes pas en avance et nous avons quelques amis cet après-midi. »
Les deux femmes vont dans leur chambre se changer. Puis, Geneviève, la mère, frappe à la porte de la chambre de son mari.
Entrez !
Elle entre. Pièce est toute blanche. Elle a un côté monacal. Juste le strict nécessaire. Des meubles en chêne cirée, un lit, une table de nuit, une chaise en paille, une armoire toute simple et un petit bureau. Un crucifix seulement au-dessus du lit, rien d'autre. Un homme est allongé dans le lit, recouvert d'un drap très blanc. Sa tête repose sur deux oreillers superposés. L'on ne dirait pas que c'est une chambre de malade. Pas de médicaments qui traînent ni d'odeur spécifique. Le madame veut que l'on range les fioles à chaque usage. Il y a seulement une odeur de lavande. Elle s'approche du lit.
Comment vas-tu ?
Ça peut aller. Je ne souffre pas trop, grâce à Dieu.
Il a un visage maigre, des yeux qui lui sortent de la tête, des cheveux gris. Il doit avoir dans les 60 ans.
Tu as le bonjour tout le monde.
Merci.
Et elle se retire de la pièce. Dans le couloir, elle croise le chauffeur. C'est un homme de 35 ans, grand, fort, avec une barbe noire. Elle ouvre la porte de sa chambre. Il se regarde et elle entre dans sa chambre. Après quelques minutes, l'on frappe à la porte.
Oui, entrez.
C'est la bonne. Madame, il y a là un monsieur qui dit être de la famille et veut vous voir.
Qui est-ce ?
Il n'a rien dit.
Bon, je descends.
La bonne sort.
Cela peut bien être.
Elle sort de sa chambre et va au salon. Elle ouvre la porte tout doucement. Elle voit de dos un jeune homme habillé de cuir râpé, les mains sur les hanches. Elle se demande qui cela peut bien être. Elle entre dans la pièce.
Monsieur, vous désirez ?
Il se retourne.
Alors, mère, vous ne me reconnaissez pas ?
De surprise, elle se met la tête au front et va s'asseoir. Connais pas ton fils ?
Depuis le temps. Que viens-tu faire ici ?
Il s'avance vers elle. Ce n'est pas un bel accueil après toutes ces années d'absence.
Justement, tu es parti précipitamment sans rien dire. Tu nous as pas donné de nouvelles durant 12 ans. Sans rien dire, tu débarques.
Tu n'es pas contente de me revoir ?
Ce n'est pas la question.
Où est père ?
Dans sa chambre.
Il fait le geste de quitter la pièce.
Non, n'y va pas. Il est très malade. Il ne lui faut pas de surprise.
Qu'a-t-il ?
Le cœur. C'est moi qui le préviendrai de ton arrivée.
Elle se lève.
Comptes rester longtemps ici ?
Juste le temps de vous proposer une affaire.
Une affaire ? Nous n'avons pas d'argent.
Il vous reste encore des terres.
Oui.
C'est de l'argent qui dort. Vous les vendrez. Et en investissant avec moi, vous gagnerez de l'argent. Beaucoup d'argent.
Comment cela ?
Chut, j'en parlerai à père. J'ai faim.
C'est à ce temps-là si je me souviens que l'on mange d'habitude.
Alors si c'est prêt, allons manger.
Dans la salle à manger, il retrouve Iphigénie.
Iphigénie, je te présente ton frère, que tu as très peu connu, car il a quitté la maison lorsque tu avais 5 ans.
Salut, Sorette.
Bonjour.
Après le repas, Godvienne est allée prévenir son mari du retour de Franck.
Le mari est surpris, mais elle lui dit
« Viens te proposer une affaire, je ne sais trop quoi. Refuse. Il veut que l'on vende des terres pour mettre de l'argent dans je ne sais quoi. Vu dans l'état où il est, nous n'en reverrons certainement plus l'argent. »
Après l'entretien de la mère, Franck a l'autorisation d'aller voir son père.
Bonjour père. Il s'approche du lit sur la pointe des pieds. Le père est très ému.
Bonjour Franck. Tu n'as pas changé malgré toutes ces années. Je suis heureux de te revoir.
Moi aussi père. Il se penche vers son père et lui donne un baiser sur la joue.
Tu es revenu définitivement ?
Pas vraiment, père. J'aimerais vous proposer quelque chose.
Voilà, je veux acheter un bar. Si vous pouviez m'aider financièrement,
vous serez dans l'affaire, vous aussi. Participation aux bénéfices.
Tu sais, un bar, ça rapporte beaucoup. Il te faut combien ?
250 000.
Nous n'avons pas cette somme.
Vous avez des terres, vendez-les. Elles ne vous rapportent presque rien.
Laisse-moi réfléchir. Tu sais que je suis malade.
Oui, père. Franck pense qu'il aurait dû lui demander comment il allait.
Comment allez-vous, père ? Je suis très las. Alors, laisse-moi me reposer. Nous nous verrons plus tard pour cette affaire.
La mère et la fille sont sur le perron de la maison, assis sur des chaises longues.
Comment vas-tu, ma chérie ?
J'ai toujours ces maux de tête et puis cette angoisse.
Repose-toi !
La mère se lève et va au jardin.
Arrive près d'Iphigénie, Franck, qui s'assoit sur la chaise longue qu'a laissée sa mère.
Alors, Sorette, comment trouves-tu ton frère ?
Elle hausse ses épaules. Ça n'a pas l'air de t'emballer, hein ?
Je ne te connais pas.
Tu n'as jamais cherché à savoir comment j'étais ?
Oui, il fut un temps où j'imaginais que tu étais comme une personne extraordinaire.
Déçu ?
Non, je ne pensais plus à toi depuis longtemps.
Franck a retrouvé sa chambre d'enfant. Elle est restée telle qu'il a laissée. Son lit bateau, son bureau, ses posters de groupe rock, sa collection de petites voitures.
La nuit, il est réveillé par des pas dans le couloir.
porte d'entrée qui s'ouvre. Il se lève pour aller voir la fenêtre. Il voit sa mère en chemise de nuit et robe de chambre courir au fond du jardin.
Tu lui as déjà promis quelque chose à ton fils ?
Dit-elle en faisant les 100 pas dans la chambre.
Non, je ne lui ai rien promis.
Cela m'étonne. Voilà une semaine qu'il est à la maison. Et s'il ne lui avait rien promis, il serait déjà parti.
Elle s'arrête de marcher.
Surtout ne lui donne rien.
Et elle sort.
Voit sa sœur qui cueille des fleurs au jardin.
Que vas-tu faire de ces fleurs ?
Oh, mais rien.
Et elle lance le bouquet en l'air.
Pourquoi tu fais cela ?
C'est joli, non ?
Franck aimerait partir, mais il attend la réponse de son père.
Que Franck avait soif, il est sorti de sa chambre pour aller à la salle de bain boire un verre d'eau.
Arrivé devant la chambre de sa mère, il entend sa voix. Il s'arrête pour écouter.
Je suis sûr qu'il lui a promis quelque chose. Il faut agir le plus vite possible.
Mais comment ?
Demande une voix d'homme.
Comme nous avions prévu. Oh, et puis, ne parlons plus de lui. Viens maintenant, viens, viens.
Franck se retire de la porte.
Elle a décidé de faire assassiner mon père. Mais comment ?
Et il retourne dans sa chambre. Prend sa valise pour en sortir un revolver. Et le met sous son oreiller. Matin au petit déjeuner, il retrouve sa mère et sa sœur au salon.
« Votre père est fatigué aujourd'hui, il ne faudra pas le déranger. »«
Qu'a-t-il ?»«
L'été approche, les chaleurs le fatiguent beaucoup. »
Dans la matinée, pendant que sa mère est partie faire des courses au village, il monte chez son père. À la porte de la chambre.
Entrez.
Il entre.
Bonjour père, c'est moi.
Il s'approche du lit.
Que veux-tu mon grand ?
Rien, j'aimerais savoir comment vous allez.
Ça va, à part cette chaleur qui me fatigue. Et puis je m'ennuie dans ce lit.
C'est ta mère qui ne veut pas que je me lève. Le médecin dit que je peux. Mais mère a tellement peur qu'il m'arrive quelque chose qu'elle me met dans du coton.
Vous sentez la force de vous lever. Levez-vous, père.
J'aimerais bien, mais je me sens si faible. Mes jambes ne me tiennent plus. C'est la faiblesse causée par ce que l'on me donne à manger. C'est pas assez consistant, tu comprends. Des potages. Toujours des potages. Que veux-tu que je fasse avec un régime pareil?
Si vous voulez, père, je peux aller vous chercher un bon repas.
J'aimerais bien, mais je ne peux pas. Elle s'en apercevrait et je me ferais attraper. Non, j'aime mieux pas. Allons, laisse-moi maintenant.
Franck l'embrasse et il se retire. Dans le couloir, il retrouve Iphigénie.
Tu as été voir père?
Père ne le veut pas. Tu n'avais pas le droit d'y aller. Il ne faut pas le fatiguer.
Mais je ne l'ai pas fatigué.
Au retour, mère apprend que Franck est allé voir son père. Elle le convoque au jardin.
Tu avais dit de ne pas y aller.
Je n'ai rien fait de mal. Je suis simplement allé rendre visite à mon père malade.
Je t'avais dit que cela le fatiguerait de recevoir des visites.
Cela ne l'a pas fatigué. Et puis il faudrait qu'il ait une vie plus normale. Qu'il se lève, sorte.
Il ne peut pas. Il est trop faible.
Il faut lui donner de la nourriture plus consistante.
On ne peut pas. Cela chaufferait le sang.
C'est un médecin qui te l'a dit?
Non, mais ça se comprend tout seul. Allez, laisse-moi m'occuper de ton père comme je le fais. Je l'ai maintenu jusqu'à maintenant en vie.
Qu'est donc Iphigénie? Je la trouve bizarre.
Pour cela, bizarre.
Oui, par exemple, hier elle cueillait des fleurs au jardin. Elle en fait un bouquet et les jette en l'air.
Iphigénie est très nerveuse.
Suite de la journée se passe sans remous. Dans la nuit, Franck est réveillé par un drôle de bruit. Prend son revolver et sort de la chambre. Le bruit vient de celle de son père. Il ouvre la porte. Le bruit ressemble à une personne qui a des difficultés à respirer. Il voit, dans la pénombre, sur le lit, un califourchon sur son père pour l'empêcher de se défendre. Pour pouvoir lui mettre un oreiller sur la figure, le chauffeur. Franck prend son revolver, vise et tire. Tout force s'effondre sur son père. Père pousse un cri « Ah !» mort d'une crise cardiaque. Franck laisse tomber son revolver à terre. Court dans la chambre, sa sœur en chemise de nuit. Il voit les deux cadavres. Elle tremble de tous ses membres. Elle voit le revolver à terre. Le prend. Franck ne dit rien. Il est comme paralysé par tout ceci. Dans l'encadrement de la porte, une robe blanche apparaît. La fille de ses deux mains, en tremblant, tire. Sa mère en chemise de nuit tombe. La fille s'approche. Elle regarde le cadavre de haut. Franck s'approche d'elle. Il tire. Il tombe à terre. Il sort de la pièce comme une somnambule. Il tombe le revolver à terre dans le couloir.
lendemain matin, la bonne est venue reprendre son travail. L'a trouvée Iphigénie assise à terre, dans le couloir, en chemise de nuit, muette. Un peu plus loin, le revolver. Elle le prend et le met dans sa poche. Dans la chambre, les quatre cadavres. Avant d'appeler la police, voyant qu'Iphigénie est inconsciente, elle fait les placards et les armoires pour l'argent et quelques objets de valeur. Excitée par ce jeu qu'elle ne se rend pas compte de l'or. On sonne à la porte d'entrée. Pas de réponse, la personne entre, la porte est ouverte. Du bruit à l'étage, elle monte. Voit Iphigénie à terre. Pardon, mademoiselle. Pas de réponse. Comme elle entend du bruit dans une pièce, elle se dirige vers cette pièce. Elle ouvre la porte. C'est la chambre de la mère. Les volets sont clos, des ombres. Elle voit simplement la bonne qui fouille nerveusement les placards. Bonne voit une jeune fille sur le seuil de la porte. Je suis venue voir Franck. La bonne n'a rien compris à ce qu'elle a dit. Elle est tellement paniquée et à peur qu'elle sort le revolver et tire. La fille tombe morte. C'est celle que Franck avait rencontrée dans le train. La bonne lâche le revolver. Sort de la pièce en enjambant le cadavre. Sort de la villa, sans avoir rien pris.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le retour du fils. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVR.